Merci. Alors, deux mots pour un peu faire le lien avec hier. Bon, hier, j'étais très intéressé par les différentes interventions et notamment qui ont bien cadré, en fait, je pense, le contexte général dans lequel se situe la réforme du collège aujourd'hui et plus généralement, d'ailleurs, la réflexion sur le concept, si on peut l'appeler ainsi, ou notion de curriculum, notamment l'approche systémique que cela implique. C'est le résultat quand même d'une réflexion au niveau international depuis des années. Personnellement, j'ai représenté la France, parce que j'étais inspecteur général. J'étais d'abord l'adjoint de Tello, de Claude Tello à l'ADEP, ensuite inspecteur général de l'éducation nationale pendant 16 ans pour les sciences économiques et sociales. Et j'ai été représentant donc à l'OCDE au CERI, qui est le Centre d'études de recherche et d'innovation de l'OCDE, pendant 14 ans, représentant de la France. Et donc j'ai participé à beaucoup de travaux de réflexion à la fois au niveau de l'OCDE, mais aussi au niveau du Conseil de l'Europe, puis de plus en plus de la Commission européenne. À ce titre, je peux un peu, si vous voulez, témoigner du fait que c'est le fruit quand même d'une réflexion internationale, d'échanges, en particulier en ce qui concerne l'approche en termes de compétences. Dès 92-93, au sein de l'OCDE, j'avais défendu l'idée de ce qu'on appelle une trousse de survie, survival kit en anglais. Ça avait un peu surpris. J'avais dit, voilà, le rôle principal de la scolarité obligatoire, c'est de donner à chacun, autant que possible à chacun, un minimum de connaissances, de compétences, d'attitudes, de valeurs qui lui permettront de vivre normalement, à la fois pour une vie au travail, mais une vie professionnelle, mais aussi pour la vie tout court. Donc, à l'époque, j'avais même osé, dans un article publié dans Futurib en 1996, qui s'appelle Des compétences de base pour le 21e siècle. Bon, à l'époque, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais j'avais proposé l'idée de SMIC, savoir minimum interculturel de croissance. Je m'étais un peu amusé à provoquer, et j'avais été surpris de la réflexion, de la réaction de certains syndicats qui disaient comment vous voulez donner le minimum aux enfants du peuple, enfin, etc. Et moi, je leur ai répondu, la théorie de la justice de John Rawls, au contraire, montre que le principe essentiel de lutte contre les inégalités, c'est le principe d'équité, qui doit chercher à faire en sorte que ceux qui ont le moins, ben, ont au moins un minimum. C'est la théorie du min-max appliquée à la société. Et effectivement, je pense que le rôle essentiel de la scolarité obligatoire, ce serait avant toute chose de s'assurer que tous les élèves ont un minimum de connaissances, d'outils, de compétences, de valeurs, etc. Donc je pense que ça se situe quand même dans cette optique-là. Il y a eu ensuite les travaux de la DSECO auxquels j'ai participé. DSECO, ce n'était pas la DGESCO, tout ça. La DSECO, c'était le grand projet international de définition et de sélection de ce que sont les compétences les plus fondamentales. Et là, je dois dire qu'il y a eu des débats très intéressants, y compris au niveau philosophique, où on essayait de développer l'idée de métacompétence, et qu'en fait, il était très difficile d'arriver à un consensus. Alors, on est arrivé à publier quand même des listes de compétences qui étaient, si vous voulez, qu'on considérait comme franchement très utiles et basiques, mais ça s'est fait dans la douleur, si je puis dire, parce que ce n'est pas évident d'avoir un accord. Alors, hier, j'ai été très intéressé de voir les différentes terminologies, y compris le fait que compétences, bon, il y a différentes définitions possibles, mais notamment, on peut penser à savoir-faire, savoir-agir de manière réfléchie, etc. Mais cela dit, au niveau international, aujourd'hui, on n'est plus trop dans ces questions de vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on travaille surtout avec l'idée que les compétences, on sait à peu près ce que c'est. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est fondamental, et surtout pour prendre en compte le fait que les compétences, ben, ça inclut non seulement des connaissances, ça inclut des connaissances, mais aussi des attitudes, des comportements, des valeurs, et je dirais même des qualités, parce que souvent, ben, on ne sait pas comment les appeler, mais c'est des qualités. Le fait, par exemple, de se comporter d'une certaine manière dans une certaine situation, de réagir à des situations inédites, etc. Ce sont souvent des qualités, on peut parler de qualités personnelles. Voilà. Donc, c'est quand même dans cette optique-là. Ensuite, autre idée, tout ce qui a été dit sur le curriculum hier m'a intéressé, notamment, je vous dis, le fait que c'est une approche systémique. À l'époque, d'ailleurs, quand j'écrivais sur les compétences de base pour le XXIe siècle, le sous-titre, c'était pour une approche systémique du changement, où effectivement, on montrait qu'il fallait qu'il y ait une approche globale qui prend en compte non seulement les contenus, mais aussi les méthodes d'apprentissage, la formation des enseignants et donc les attitudes des enseignants, notamment ce que j'appelle moi une posture maïotique, c'est-à-dire revenir à une posture qui essaie de montrer à l'élève que ce qu'il sait et pas simplement ce qu'il ne sait pas, et que ce qu'il sait, il peut le développer pour en savoir plus. Bon, et ça, c'est très important et je pense que ça manque énormément. C'est la raison pour laquelle dans PISA, le taux de non-réponse est le plus fort pour les Français. On n'a pas le droit à l'erreur. Tout ça, ça vient d'un manque, à mon sens, de posture maïotique des enseignants. Donc c'est un truc, c'est un aspect fondamental. Il y a aussi ce que j'appellerais la technologie éducative au sens général, et pas simplement les nouvelles technologies de la communication. Technologie éducative, c'est aussi l'organisation générale. C'est-à-dire l'organisation, les supports d'enseignement, les learning environments. Et là, les environnements d'apprentissage, alors là aussi, on se situe en France. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir, la nouvelle réforme du collège. Je le dis, pourquoi ? Parce que maintenant, vraiment, on se situe du point de vue du learner, de l'apprenti, de l'apprenant, puisque apprenti en France, c'est un peu ambigu, donc de l'apprenant. Et donc, on se situe du point de vue de l'apprenant et aussi de l'environnement qui est le plus à même de faciliter à la fois ses apprentissages, mais aussi sa motivation à apprendre. Donc, voilà. Et dernier point, avant de commencer mon petit PowerPoint qui est court, ne vous inquiétez pas, comme ça on aura du temps pour le débat, c'est de dire qu'il y a une dimension importante dans le curriculum, c'est que par rapport à la notion en France de programme, qui était la notion traditionnelle de programme, c'est qu'il y a une dimension diachronique et pas simplement synchronique. C'est-à-dire que la cohérence entre les enseignements à chaque niveau, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi penser la cohérence diachronique, c'est-à-dire d'où on part, comment il y a des étapes de l'apprentissage, etc. Étant entendu qu'on définit les étapes, tout en reconnaissant que tous les élèves n'ont pas les mêmes rythmes d'apprentissage, qu'il y en a qui apprennent plus vite, etc. Et ça, c'est un gros, gros, gros chantier sur lequel on travaille beaucoup actuellement, qui est notamment la Fondation Potentiel des Talents, avec des bons spécialistes de psychologie, mais aussi des sciences de l'éducation. Je veux dire, je pense à Jacques Grégoire, à Todd Lubart de Paris 5, Jacques Grégoire doyen de Louvain, qui sont des gens qui travaillent beaucoup sur comment prendre en compte la diversité des potentiels, et même, je dirais, des intelligences, puisque ça a été dit hier. Alors, au-delà de ce que fait Howard Gardner avec la typologie des formes d'intelligence, je pense qu'il est surtout, il faut revenir sur l'idée que l'on a de vouloir mesurer des QI à partir de la méthode de Binet, qui date quand même du début du XXe siècle. Or, le monde a changé. Et ça, c'est le dernier point que je voudrais dire, c'est que quand même, pourquoi il y a une réforme du collège ? Bon, pourquoi tous ces débats et pourquoi ces réformes ? Ben parce que malgré tout, notre système éducatif, il était largement déterminé, comme la tragédie classique, par la règle des trois unités. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et unité de temps, c'est la classe, l'heure de classe. Unité de lieu, ben, c'est aussi la salle de classe. On apprend essentiellement dans la salle de classe, et unité d'action, c'est un maître devant des élèves, avec souvent une pédagogie qui est assez traditionnelle et pas beaucoup de méthodes actives d'apprentissage, bien que ça ait quand même beaucoup évolué depuis pas mal d'années, notamment en France, pour ce qui concerne notamment les SVT. Je dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de collègues de SVT ici, mais c'est vrai, ça a été une des disciplines sur lesquelles les démarches inductives se sont le plus développées. Produit en physique aussi, mais aussi, par exemple, sciences économiques sociales, mais c'est au lycée, c'est pas au collège. Bon. Donc voilà, alors ça c'était en guise de longue introduction. Alors maintenant, en ce qui concerne ce que je voudrais dire, c'est que le cadre auquel il a été référencé hier, c'est quand même une référence européenne au départ, c'est-à-dire que bon, ça sort en même temps que les travaux qu'on avait faits au niveau européen sur définir des compétences. Alors, vous voyez les 8 compétences clés. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont les mêmes, on les a reprises telles quelles. Il y en a une qu'on a laissée tomber complètement. On n'a que 7 parce qu'apprendre à apprendre, on l'a pas retenue. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on trouvait que c'était trop flou comme compétence et surtout, on ne savait pas l'évaluer. Alors, c'est un problème qui reviendra beaucoup. Je passerai tout à l'heure la parole un peu à ma collègue Jeannette, qui est spécialiste de l'évaluation des acquis des élèves et des learning outcomes, comme on dit de plus en plus aujourd'hui, les acquis d'apprentissage. Les autres, c'est à peu près pareil. Et il y en a deux évidemment, esprit d'initiative d'entreprise, en France, c'est plutôt autonomie et initiative, parce qu'entreprise, comme je disais hier dans l'atelier, ça fait peur. En France, ça fait toujours peur. Donc, il aurait mieux valu dire à ce moment-là, par exemple, esprit d'initiative et d'entreprendre. Peut-être serait mieux passé. Mais dès qu'il y a entreprise, c'est vendre son âme au diable, hein, comme je disais hier. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne faut pas que l'éducation soit au service du marché du travail. Bon, ce qui est quand même un problème, parce que je dis que ce n'est pas la finalité de l'éducation, mais en même temps, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que c'est quand même mieux, si on veut que les élèves s'intègrent dans la société, qu'ils trouvent un job. Et que les qualités pour aujourd'hui qui sont attendues par les entreprises sont à peu près les mêmes que celles pour faire un bon citoyen lucide et actif. Sensibilité, expression culturelle, nous on a préféré culture humaniste, hein, vous voyez, possession d'une culture humaniste. Cela dit, il y a un côté dans le culturel un peu artistique et médiatique du coup qui a sauté. Alors on intègre l'idée d'humanisme, ça c'est très important puisqu'en France c'est la terre de l'humanisme, hein, par excellence, n'en déplaise à Erasme, mais c'est surtout les philosophies du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, sur lequel on se base pour ce fondement humaniste de l'éducation. Enfin bon, voilà. Après tout, on voit quand même qu'on est largement déterminé dans la loi de 2005 et le décret du 21 juillet 2006 par ce qui s'est fait au niveau européen. On est en pleine en phase avec le mouvement européen. Après, on voit qu'en septembre 2016 et le décret du 31 mars 2015, donc à compter de septembre 2016, on va avoir vraiment une vraie réforme. Et là, je trouve systémique du curriculum parce que en ce sens que, d'abord, on parle de grands domaines de formation. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et on peut questionner la façon de penser les cinq domaines. Je suis d'accord, je crois que c'est Patrick Grayoug qui l'a dit hier, qu'on aurait pu avoir un point de vue encore plus de l'élève. C'est-à-dire, vivre bien dans sa peau, vivre avec d'autres. Enfin, on aurait pu partir plus du point de vue de l'élève et on aurait pu aussi rassembler. Bon, toute typologie et tout classement est perfectible et peut être critiqué. Déjà, je trouve que c'est un très grand progrès, moi, d'avoir une vision assez systémique de ce que sont les contenus d'enseignement et en y intégrant, effectivement, la notion de compétence. Alors, chacun des domaines, c'est ça qui est important, requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives. On est bien dans l'approche systémique. Les objectifs de connaissance et de compétences de chaque domaine et la contribution de chaque discipline sont déclinés dans les programmes d'enseignement. Donc les programmes sont vraiment déterminés par rapport à l'esprit et à l'architecture du socle. Les acquis des élèves dans chacun des domaines sont évalués au cours de scolarité, sur la base des connaissances et compétences, etc. Moi, je suis d'accord avec tout, sauf le fait que je vous dis compétences, pour moi, ça inclut connaissances, et que la définition la plus large de compétences, maintenant au niveau international, c'est que ça inclut les connaissances, et que je ne distingue pas vraiment connaissance et compétences. Alors là, slide, comme on dit en bon français, la diapo qui suit. C'est pas affiché ?
C'est comme ça. On voit le.
C'est pas possible. C'est affiché là.
Oui, mais on voit tout à côté. Mais,
Bon, laisse-moi faire, continue à parler, je m'en occupe. Ah, compétence du 21.
Moi, j'avais besoin d'un technicien, voilà. Non, parce que d'un coup, j'ai commencé à flipper, là. J'ai dit, si on ne voit pas ce que j'ai dit. Bon, c'est pas gênant, en fait. Panorama européen. Alors, une grande diversité pour la mise en œuvre des compétences clés en Europe dans le curriculum d'enseignement obligatoire. Mais un consensus, par contre, sur ce qu'on entend par compétences. La première définition, celle du CDFOP, qui maintenant est très utilisée. On vient de faire une étude internationale sur l'approche en termes de learning outcomes, donc en termes d'acquis d'apprentissage en Europe, et pas simplement d'ailleurs au niveau de l'enseignement technologique et professionnel, mais aussi au niveau de la scolarité obligatoire et même de l'enseignement supérieur. C'est que de plus en plus maintenant, on cherche à définir des acquis d'apprentissage. Eh bien, c'est l'aptitude à utiliser de manière pertinente des acquis d'apprentissage dans un contexte spécifique, aussi bien à l'école, au travail que dans la vie privée. Bon, ça, c'est une notion assez large, mais sur laquelle au moins il y a un consensus. Et puis, la notion de compétence, sous le monde d'aujourd'hui, inclut, outre une dimension cognitive, des aptitudes, des valeurs, des attitudes, des comportements et des qualités, notamment relationnelles. L'intelligence des situations, l'intelligence des relations au sein d'un groupe, etc., sont effectivement. Alors, du coup, moi, maintenant, je ne sais plus comment avancer après, parce que je n'ai plus mon truc.
Juste.
C'est lequel
c'est la même manière.
Comment c'est juste, je clique où là
je ne sais pas. Oui.
Voilà, ok. Enfin, c'est plus mon système et la souris. Voilà. Alors, on a essayé de faire avec Gábor Halász, qui est professeur à Budapest et qui était directeur de l'Institut hongrois de l'éducation pendant pas mal d'années. Donc, on a écrit un article en European Job Education en 2011 où on avait essayé de faire à partir d'une grosse étude qu'on avait pilotée au niveau international sur, en Europe, sur la mise en place et la mise en œuvre des compétences clés. Et on avait fait une petite approche, d'abord une petite typologie, avec une approche surtout fonctionnelle, donc qui mettait surtout l'accent sur les compétences au sens des outils, les savoir-faire, hein, les savoir-agir, etc. Donc vous voyez Allemagne, Chypre, Irlande, Lituanie, etc. Approche encore essentiellement fondée sur les savoirs disciplinaires, Bulgarie, Italie, Malte et Portugal. Approche fondée sur les principaux enjeux de société. Alors ça, c'est parce que les finalités des curricula sont beaucoup plus larges, beaucoup plus définies en termes de grandes finalités de l'éducation. C'est le Danemark et la Slovaquie. Donc ce n'est pas toujours ce qu'on attend, c'est-à-dire une cohérence des Scandinaves, une cohérence des pays de anciens pays de l'Est, etc. Vous voyez que c'est assez étonnant ce qu'on trouve, mais la réalité, elle est là. Approche fondée essentiellement sur le développement de qualité personnelle. Alors ça, c'est l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, la République tchèque, le Luxembourg. Vous voyez que c'est très hétérogène, je veux dire, ces pays. Bon. Approche fondée sur les grandes finalités d'éducation, mais sans définition précise des compétences clés à développer. Alors la Finlande, la Lettonie, les Pays-Bas et la Suède. Puis une approche mixte thématique et fonctionnelle, Belgique, Estonie et France. Et l'Espagne, on l'avait laissé un peu de côté parce qu'on était en pleine année à l'époque, dans des réformes en Espagne assez importantes. On ne savait plus où classer véritablement l'Espagne. Ici, c'est dans une phase de transition. Depuis, ils sont allés aussi vers l'approche en termes de compétences, mais aussi une approche mixte à la française, c'est-à-dire où les disciplines n'ont pas disparu, restent encore importantes et prégnantes même. Et puis en même temps, l'approche systémique, etc. Alors, les principales conclusions et recommandations du rapport européen, donc on a fait. Alors là, vous avez un executive summary. C'est en anglais, je crois,
oui,
c'est ça. Mais bon, c'est executive summary, donc c'est pas long à écrire. On vous en a amené, une trentaine ou quarantaine, je sais pas. Plus pour ceux qui sont un peu pervers, alors là, il y a des trucs beaucoup plus importants, enfin plus longs en anglais. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc vous devriez en avoir à peu près. Pour tout le monde, donc qui est, sont les principaux résultats de l'étude à laquelle a fait référence Olivier, où il y avait Bertrand Pajot ici présent, Olivier, nous, voilà. Et nous, on avait été chargés de faire la synthèse des conclusions et d'élaborer des recommandations. Alors, d'abord, le débat sur l'importance relative des compétences transversales et des savoirs disciplinaires est variable selon les pays. Certains pays sont allés très loin en faveur des compétences transversales. L'Écosse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Isobel MacGregor, qui est une vie amie, je puis dire, parce qu'on a commencé à travailler ensemble au niveau international début des années 90. L'Irlande aussi a beaucoup évolué, alors plus récemment. Et puis la Finlande, j'en dirai un mot tout à l'heure, ce qui est assez surprenant, quand on sait les très bons résultats de la Finlande à PISA et qui a quand même pris l'initiative de s'inspirer du modèle écossais et d'aller très loin dans la mise en place des compétences transversales. Et donc vous allez être étonné par le modèle écossais, que va vous décrire Isabel tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus de discipline pratiquement, il n'y a plus que des activités et des expériences. Et ça, je trouve ça génial, personnellement, parce que c'est obligé de secouer le cocotier. Quoi, là, bon. C'est obligé de provoquer. Mais comme l'a dit Graham Donaldson, ton collègue, qui a été doyen de l'inspection générale pendant longtemps, qui est professeur à l'Université de Glasgow, ça prend du temps. Voilà. On ne change pas par un coup de baguette magique, c'est not by a magic touch. C'est-à-dire qu'on fait évoluer les choses, ça prend du temps. C'est un processus, c'est-à-dire que c'est systémique et c'est aussi un processus. Et un processus, ça prend du temps. Voilà. On ne peut pas. Voilà. Alors, ça implique aussi une continuité. Hein, le succès quand même de la Finlande, par exemple, ou de l'Écosse, c'est quand même qu'il y a une continuité de la politique, même quand il y a un changement de majorité politique. Nous, même quand c'est au sein de la même majorité politique, chaque ministre remet en cause ce que le prédécesseur a fait. Donc c'est quand même un peu un problème. Voilà. Alors, la formation des enseignants est cruciale pour enseigner et évaluer autrement les acquis des élèves et pour coopérer avec des collègues d'autres disciplines. Certains pays, d'ailleurs, ont beaucoup investi dans cette formation. Je viens d'apercevoir que mon collègue Jean-Charles Chabanne, qui est arrivé là, on a fait ensemble une étude, qui était un professeur ici, et on a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur l'attractivité du métier d'enseignant en Europe, où on a vu qu'un des aspects très importants, c'était quand même d'améliorer la formation initiale et continue, le développement professionnel, comme on dit aujourd'hui, des enseignants. Et c'est un facteur essentiel. Mais alors, quand on fait une réforme du type de celle qu'on met ensemble au collège, à mon sens, l'effort en formation initiale et en développement professionnel n'est pas du tout à la mesure des changements que l'on veut effectivement mettre en œuvre. À mon sens, là, il y a un vrai problème. Hein. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle nous, on dit que la formation des enseignants est cruciale. J'ajouterai la formation des chefs d'établissement. Dans certains pays, par exemple en Autriche, ils ont même mis la priorité à la formation des chefs d'établissement en disant le mode leadership, le mode de pilotage pédagogique des établissements scolaires, pour reprendre une expression d'un rapport de Boissineau, pas Alain mais sa femme, Marie-Paul Boissineau, sur le pilotage pédagogique des établissements scolaires. Mais dans certains pays, c'est effectivement une priorité, beaucoup plus qu'en France, à mon sens. Et les pays qui ont particulièrement investi dans tous ces domaines, c'est l'Autriche, l'Écosse, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, Grèce, Malte, Norvège. On ne peut pas mettre la France, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'en France, il y a une priorité suffisante donnée à la formation initiale et au développement professionnel des enseignants. L'implication des enseignants et des partenaires de la communauté éducative est essentielle. C'est une banalité de le dire, mais c'est non seulement des enseignants, mais aussi qu'il y ait un partage. Même du point de vue des parents d'élèves, c'est important pour la scolarité obligatoire où quand même les parents jouent encore un rôle un peu important, surtout les mères. Vous savez que le facteur essentiel de réussite scolaire, c'est quand même le niveau de diplôme de la maman. C'est pas étonnant quand on sait que les destinées scolaires sont largement déterminées au niveau du CP et qu'à cet âge-là, c'est quand même plutôt les mamans en général que les papas qui s'occupent de la scolarité des enfants. C'est une donnée qui a été confirmée par beaucoup, beaucoup d'études internationales. Donc, quand j'ai des partenaires de la communauté éducative, c'est effectivement aussi... Et puis aussi, les associations et le périscolaire, j'en dirais un mot, parce qu'à mon sens, quand on voit tout ce qu'on veut faire et la manière dont on veut s'y prendre, il va falloir définir autrement la complémentarité entre le scolaire et le périscolaire et, à mon sens, accroître la synergie entre les deux, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans la... Bien souvent, c'est deux domaines disjoints. Les gens se connaissent, se reconnaissent parfois. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils travaillent beaucoup la main dans la main et ensemble. Ensuite, les activités transdisciplinaires et les réévaluations doivent être inscrites dans le projet d'établissement. C'est-à-dire que c'est fondamental que ces activités ne soient pas considérées comme des strapontins. Bon, il faut tirer quand même les leçons des parcours diversifiés, des travaux croisés, des itinéraires de découverte. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça n'a jamais été considéré comme au cœur du curriculum. Ça a toujours été considéré comme la cerise sur le gâteau ou, si vous voulez, le strapontin. Et donc, c'est la raison pour laquelle... En plus, il faut évaluer et reconnaître. Parce que, comme j'ai dit, tout ce qui n'est pas évalué dans le système scolaire, en termes d'acquis des élèves, c'est d'évaluer. Donc, automatiquement, c'est l'échec. Donc, il faut penser aussi les méthodes d'évaluation. Quand je dis les méthodes d'évaluation... C'est les critères et les modalités. Les critères d'évaluation et les modalités qui doivent être transparents. On a pas mal de collègues qui ont beaucoup travaillé là-dessus, comme Pierre Maire, la Reine, etc. Au niveau international, évidemment, beaucoup. Janet en dira un mot parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, c'est très, très important de définir des critères transparents et puis de définir aussi des modalités parce que c'est vrai que là, il y a une grande subjectivité déjà dans la manière dont les enseignants évaluent. Mais alors, sur ces... activités transdisciplinaires et sur les EPI, par exemple, ça va être encore pire. Parce qu'il y a un aspect jugement, je dirais, il faut juger et jauger les attitudes et des comportements. Et ça, on en a peur. Tous les enseignants en ont peur parce qu'on se dit, mais j'ai pas la légitimité, moi, pour dire, pour juger une attitude, un comportement, etc. Enfin, bref, enfin, il y en a beaucoup, en tout cas, qui sont assez réticents à le faire. Donc, il faut définir effectivement des critères et des modalités. Alors, les autres compétences transversales les plus souvent mentionnées, parce que là, tout à l'heure, je vous ai fait une liste des compétences au niveau européen, on en a beaucoup parlé pour la France. Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent comme compétences? Parce que dans les curricula, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans les différents pays? On voit très souvent sa résolution de problèmes, la capacité à résoudre des problèmes. Nous, ça apparaît pour la première fois vraiment en tant que tel dans une, je crois, dans le domaine 2. Capacité à prendre des initiatives, capacité à prendre des décisions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Capacité à évaluer des risques, réflexion critique, critical thinking, et on dit créativité. Là, tu en parleras parce que c'est la grande spécialiste de la créativité. Gestion constructive de ses émotions, ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux actuellement sur ce qu'on appelle learning for well-being ou well-being for learning. Et de plus en plus, d'ailleurs, même les études de l'OCDE PISA, entre autres, il ne faut pas toujours se référer à PISA, mais pour la scolarité obligatoire, on a souvent intérêt parce que bon, ça juge quand même les aptitudes et les compétences des élèves de 15 ans. On se rend compte que dans les questionnaires, parce qu'il n'y a pas que des tests, il y a des questionnaires, on se rend compte qu'il y a une corrélation évidente entre le climat, la perception du climat, en anglais j'aime bien le terme ethos, qui est plus proche. C'est à la fois un climat et une éthique qui règne au sein de l'établissement. Et le sentiment d'appartenance à un établissement, eh bien, il y a une corrélation très forte entre ce sentiment positif et les résultats en termes d'acquis des élèves. Et c'est vrai qu'on ne met pas assez d'importance, à mon sens, en France, à la gestion constructive des émotions, parce que c'est personnel, qu'il y a l'idée... les instituteurs, ils ont institué la République, c'était ceux qui ont institué la République. Bon, il s'agissait de formater et pas tellement de se soucier de la diversité, de l'affectif, tout ce qui est affectif. Bon, on se dit, ça c'est vraiment pas si important que cela. Aujourd'hui, au contraire, je peux dire que ça c'est très important depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et surtout en Écosse, par exemple, mais aussi dans tous les pays scandinaves. Alors qu'en France, franchement, l'affectif, c'est le cognitif, le cognitif, le cognitif. Le non-cognitif, c'est plutôt des compétences de citoyenneté, mais qui n'ont rien à voir avec l'affectif. Donc c'est quand même assez important de voir que dans beaucoup de pays, la gestion constructive de ces émotions, c'est considéré comme un rôle de l'école. Bon, c'est quand même important. Capacité d'écoute, donc c'est la capacité à communiquer. Comme je disais hier, c'est pas, je cite un présocratique, d'habitude on cite souvent Héraclite, dont on ne connaît que quelques fragments, mais c'est Empédocle d'Agrigente qui avait dit savoir écouter et donc parler. Et je trouve ça formidable. Après, il y a eu l'écoute compréhensive de l'école de Palo Alto qui a développé tout ça, c'est-à-dire qu'on apprend à écouter, et quand vous écoutez vraiment, ça veut dire que si vous restituez ce que l'autre a dit, que l'autre est d'accord en disant oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire, bien ça veut dire que vous avez vraiment écouté. Et ou en tout cas, si vous n'avez pas bien saisi, être sûr de votre saisie, au moins vous vous posez la question, mais est-ce que tu as voulu dire que... Bon, voilà, ça paraît idiot, mais dans la capacité à communiquer, dans le travail de groupe, et donc dans le pays, par exemple, dont on parlait hier, sur information, communication et citoyenneté, c'est un aspect très, très important. Tout part de l'écoute, et de la capacité d'écoute, et la gestion du temps. Quand, je me souviens, on m'avait demandé d'animer un jour, j'étais au cabinet de Robert Chapuis, à ce moment-là, je m'occupais de l'enseignement technologique et professionnel. Pour moi, ça a été très intéressant pendant 2 ans de m'occuper de ces enseignements-là. J'ai découvert un milieu que je connaissais peu et ça m'a beaucoup intéressé. D'abord parce que j'ai trouvé que les professeurs travaillaient beaucoup plus en groupe, surtout dans les lycées professionnels les plus difficiles. Et du coup, ils travaillaient plus en équipe. Et où, effectivement... la gestion du temps était considérée comme quelque chose d'important. Il y avait même des établissements qui avaient mis en place des démarches de type qualité. Alors, il ne faut pas dire « non, ça s'est importé dans ton pays et tout ». La démarche qualité, c'est au contraire très important. Zéro défaut, y compris zéro mépris. Enfin, des tas de choses qui sont très importantes. Et en Écosse, d'ailleurs, moi, j'ai participé, Isabelle s'en souvient, à des travaux sur « on a mis en place des démarches qualité en Écosse dans les établissements scolaires ». Et ça a été vraiment un succès. C'est-à-dire... Voilà, donc ensuite, c'est pas contrôle, c'est tac. Alors, nécessité d'optimiser la complémentarité entre activité scolaire et périscolaire, j'en parle parce qu'on en parle presque jamais. Moi, je dis que l'intégration explicite des objectifs en termes de compétences, en sus des objectifs en termes d'acquisition des savoirs, pour reprendre la terminologie française, bien que pour moi, c'est pas dissociable, peut alourdir les charges d'enseignement et les programmes. Bon. Cela d'autant plus que l'on demande aussi, alors ça c'est le discours qu'on entend, que j'ai encore entendu samedi soir dans un dîner où j'avais été que des profs normaliens agrégés de lettres classiques qui disaient on nous demande de tout, éducation à la santé, éducation sexuelle, éducation aux médias, éducation à l'environnement et puis quoi encore, et comment voulez-vous qu'on enseigne à des grands auteurs, etc. Bon, alors c'est vrai aussi, il faut le prendre en compte. Bon. Il faut donc définir des hiérarchies quand on a les objectifs et répartir les responsabilités entre ce qui relève pour moi du scolaire et du périscolaire. Après tout, il y a plein d'associations périscolaires qui sont actives. Pourquoi ne pas partager un peu les rôles? C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On peut certes, un enseignant, il doit contribuer à tous ces aspects-là, mais il ne peut pas en avoir la principale responsabilité. À mon sens, il faut en repenser. Alors, il faut voir de qui dépend le périscolaire. Alors, dans le primaire, c'est relativement plus facile parce que souvent... les municipalités jouent un rôle particulièrement important, donc il faut agir au niveau, les faire réfléchir au niveau des municipalités. Au niveau des collèges, c'est au niveau des départements qu'il faudrait avoir des réflexions un peu plus importantes. Enfin, dans le contexte actuel de la territorialisation, un problème majeur en suite de la formation des personnels est celui de l'organisation des emplois du temps. Alors, je n'ose même pas en parler. C'est-à-dire que tous les chefs d'établissement que je connais, les principaux de collège, me disent que notre principal problème, ça va être de penser, organiser l'emploi du temps. Compte tenu des dotations d'heures, des dotations horaires. Parce qu'on n'a pas beaucoup de marge pour essayer de justement faire travailler les professeurs ensemble. Alors, un exemple, donc, avant de passer la parole à Janet pour approfondir les aspects que tu... Je souhaite juste deux aspects surtout, je crois, sur l'assessment, c'est-à-dire l'évaluation, et puis la créativité, parce que c'est quand même une compétence qui est de plus en plus mise en avant. Je pense que c'est intéressant de dire que les innovations en cours en Finlande, malgré les très bons résultats au test PISA, la Finlande a entrepris une réforme du curriculum dans l'enseignement obligatoire qui s'inspire largement du modèle écossais. Pour nombre d'activités, les disciplines laissent la place à des approches thématiques. Alors, un exemple auquel j'ai assisté, moi, si vous voulez, à Helsinki, l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, ben, il y a un enseignant d'histoire et de géographie, il y a un enseignant qui vient, qui fait un peu de l'économie. On fait en anglais, donc c'est le prof d'anglais qui est là, parce que pour vérifier quand même que l'anglais qui est utilisé est à peu près correct. Puis, il y a quelques notions de base en droit. Alors, il ne s'agit pas de faire un enseignement juridique à proprement parler, mais il y a quelques notions de droit pour comprendre ce que c'est l'Union européenne, la façon dont ça s'est construit, les droits des États, ce qui relève de la compétence de l'Union. Bon, éducation à la citoyenneté, mais à la citoyenneté européenne, c'est-à-dire vous êtes citoyen. Alors, la citoyenneté européenne, en France, on ne peut pas dire qu'il y ait un sentiment très fort, peut-être chez les jeunes, de sentiment européen, bien qu'il est plus fort chez les jeunes, souvent que chez les adultes. En Finlande, par exemple, j'ai pu le constater, mais c'est aussi vrai d'ailleurs en Suède ou au Danemark, véritablement, on met le paquet, si je puis dire, sur la citoyenneté européenne et l'idée de citoyenneté européenne. Prenez-moi moi de la citoyenneté. Cette approche interdisciplinaire est organisée en travail en petits groupes d'élèves, donc démarche inductive et collaborative. Souvent, je ne l'ai pas mis, mais dans des environnements d'apprentissage qui ne sont pas nécessairement du tout la classe, mais des CDI beaucoup plus larges que ce qu'il y a en France, avec des petites salles d'ailleurs équipées, avec tous les accès qu'on a en multimédia, avec des 5-6 tables où les élèves peuvent travailler en groupe de 6 à 12, par exemple, ou de 3 à 12. C'est vrai que nous, en France, l'architecture scolaire pose encore un problème à cet égard. Ça ne facilite pas ce travail de démarche inductive et collaborative. La finalité, c'est répondre au mieux aux besoins de formation du XXIe siècle. Ça, on l'oublie, mais je suis désolé, mais le monde d'aujourd'hui, et surtout le monde qui s'annonce, n'est pas celui qu'on a connu, ou que moi j'ai connu comme élève. Ça n'a plus rien à voir. Hein, comme j'ai dit, la règle des trois unités, ça correspondait d'ailleurs à une France essentiellement rurale, avec des rythmes qui étaient d'ailleurs souvent donnés par l'agriculture, etc. Les grandes vacances, c'était parce que c'était le temps des moissons. On faisait la batteuse quand j'étais jeune, on allait de ferme en ferme, puis après, il y avait les vendanges pour gagner quelques sous. Enfin bref, tout ça, c'est plus le monde d'aujourd'hui. Et puis surtout, les nouveaux défis, les défis d'enjeux, les enjeux éthiques, la montée des extrémismes, le racisme, la xénophobie, les nouvelles violences. Enfin, puis on voit tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Bon, je veux dire, bon, point de vue professionnel, pareil, je veux dire, les compétences qui sont attendues ne sont pas celles qu'on attendait. Alors, hier, la distinction là, entre compétences, c'est-à-dire savoir-faire routinier, savoir-faire déjà qui peut être innovant, puis après réfléchi, tout ça, bon, c'est vrai qu'on va malgré tout de plus en plus vers des compétences un peu plus complexes qui sont attendues. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi promouvoir le plaisir d'apprendre. Moi, je crois qu'en France, on oublie encore trop le fait que la motivation à apprendre, c'est essentiel et qu'il faut qu'il y ait du plaisir d'apprendre. Et d'ailleurs, je crois que nos meilleurs enseignants, ceux dont on a le meilleur souvenir, c'était ceux qui nous donnaient le plaisir d'apprendre. Un jour, je suis dans un lycée, je me rappelle, un des trois lycées de ZEP de Marseille, où je suis originaire, vous pouvez l'entendre dans mon accent. Bien que je sois à Paris depuis 30 ans, je n'ai pas perdu l'accent. C'est indélébile, si je puis dire. Je vais dans un lycée et puis je vois un cours de SES, bon, 95% d'immigrés, en pleine voyez, banlieue un peu craignosse, où de temps en temps il y a des tirs de Kalachnikov dans le lointain. Bon. Et puis je vois ces élèves qui répondaient à toutes les questions, etc. À la fin du cours, d'abord je me félicitais le prof, j'ai dit, tenez, moi vous m'avez scotché là. Alors je veux plus vos élèves, mais vous aimez les sciences économiques sociales? Il dit, non, mais on adore notre prof. Et donc il nous donne envie, quoi. Moi, je suis désolé, mais... Et on parle toujours de l'hétérogénéité des élèves. Il y a un peu une hétérogénéité des profs qu'on pourrait peut-être davantage prendre en compte. Parce que quand on fait une réforme, on croit que tous les profs sont super bien. Il y en a d'excellents, mais d'excellents, même s'ils méritent, comme l'instituteur d'Albert Camus, quand il y fait référence. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, ils ne sont pas faits pour ce boulot. Moi, je ne suis pas pour les virer, parce que, en tant que tel, je suis pour les reconvertir dans une autre profession. Mais il y en a, je leur ai dit, d'ailleurs, ça m'est arrivé, des gens qui avaient réussi le CAPES ou la GREG, quand je faisais la visite, vous savez, d'après, où l'IPR m'appelait, me disait, bon, celui-là, franchement, il pose problème, bon, je ne veux pas me prendre la responsabilité, j'arrivais à convaincre 2 fois sur 3 de changer de métier. J'ai dit, vous êtes super doué intellectuellement et tout, faites à la recherche, mais n'enseignez pas à des élèves. D'abord, ils avaient peur des élèves, certains, donc du coup, ils avaient un comportement, ils n'étaient pas faits pour enseigner. Et puis, il y a une compétence que j'ai énoncée hier, qui, moi, me paraît incroyablement importante et qui est toujours oubliée, c'est séparer l'essentiel de l'accessoire. Quand j'étais président du jury d'Agrec, pendant 5 ans à l'externe, et 4 ans, on m'a fait 5 ans ou 4 ans, parce que je ne trouvais pas le successeur qu'il fallait, bon, et 4 ans à l'interne, je prenais comme critère la capacité de l'enseignant qui faisait une leçon à distinguer l'essentiel d'accessoire. Je lui disais, vous avez parlé de tas de choses qui sont vraiment accessoires, vous avez oublié ce qui est le plus fondamental. Pour moi, c'est une qualité pédagogique essentielle, mais c'est aussi une qualité pour tout le monde. Vous avez des tas de gens qui se noient dans les détails et qui oublient l'essentiel. Voilà. Voilà. Et donc, l'essentiel, c'est que je me taise. Les premières évolutions, c'est la dernière phrase, donc elle est importante. Les premières évaluations, par contre, montrent un accroissement de la motivation à apprendre et une progression des acquis. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'en Finlande, les expériences en cours se sont traduites parce qu'ils avaient fait, ils avaient un peu reculé hein, dans PISA. Ils avaient un peu reculé, ils étaient moins bons. Alors ils étaient commencé à être inquiets parce que tout le monde venait voir en Finlande ce qui se passait. Ils avaient un peu reculé. Je ne parle pas de Shanghai, parce que là-bas, ils s'entraînent à fond à faire les tests, donc ça triche, je trouve que c'est triché un petit peu. Alors qu'en France, ils s'en foutent complètement, les profs de PISA, la plupart. Quand vous leur dites, est-ce que vous prenez en compte le fait qu'il y a PISA, les profs de collège, ils vous disent, tenez, on n'enseigne pas pour faire PISA. Bon. Alors que là-bas, tout est en Corée. Moins au Japon, parce que vous avez vu, au Japon, il y a plein de problèmes maintenant, partout, hein, dans la société. Mais Shanghai, Singapour, c'est au doigt et à l'œil, en avant. On prépare PISA, les tests. Donc, moi, je les mets de côté. En plus, les problèmes d'échantillonnage, c'est-à-dire que, franchement, dans les échantillons, quand vous voyez les échantillons de Shanghai, vous voyez que tous les enfants dans les zones agricoles les plus reculées, où il y a encore des analphabètes, alors cela, ils ne sont pas dans l'échantillon. Voilà, donc pour ces raisons-là, je prends la Finlande par rapport aux autres Européens. Et comme ils avaient un peu reculé, tout de suite ils réagissent. Ils disent ben, mais peut-être parce qu'on est un peu des has-been et il faut qu'on bouge. Et tout à l'heure, vous comprendrez mieux ce que les Finlandais ont fait. Je crois que c'est la dernière, oui. Voyez. Et voilà. Et parce que, justement, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc je passe la parole à Janet. Hein.